Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment la transmission du savoir, la transmission de la connaissance au plus grand nombre.
On peut quand même travailler le savoir scientifique sérieux, rigoureux, et continuer à être dans le registre de l'émotion, parce que en fait, c'est aussi l'émotion qui nous meut.
Je suis au Mur ne servent à rien, rencontre pour penser et comprendre les migrations à Dulphy en compagnie de Karen Akoka et Philippe Rekasevic. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Karen Akoka, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Vos travaux portent notamment sur les migrations internationales et les pratiques étatiques en la matière. Philippe Rekasevic, vous êtes cartographe et géographe. Vous avez notamment collaboré avec le monde diplomatique et participé à divers projets mêlant les cartes, les sciences, les politiques et les arts. Tous deux, vous proposez dans le cadre de ces rencontres une performance cartographiée, Là où murmurent les frontières, performance qui nous propose une lecture originale et émancipatrice des phénomènes migratoires mondiaux. Comment cette idée de performance cartographiée est-elle née ?
Je pense que tous les deux, mais après Philippe parlera mieux pour lui que moi, on a ce constat que ça fait des décennies en fait qu'on fait des recherches, que les chercheurs produisent du savoir sur les questions migratoires, et que ce savoir-là, qui globalement montre que l'immigration n'est pas un problème, c'est un fait social comme les autres, et que même c'est une richesse, il n'impacte pas du tout dans les discours publics. Donc les discours médiatiques, on entend toujours parler de l'immigration comme un problème, comment le résoudre ce problème. Et puis alors encore pire dans les espaces politiques, parce que depuis 30 ans, il y a des lois de plus en plus dures qui viennent s'enchaîner les unes derrière les autres. Donc nous, jusqu'ici, on a surtout, enfin moi, jusqu'ici, j'ai surtout écrit des livres. Et aussi, je me rends compte de la diffusion d'un livre. Alors un livre, c'est très bien parce qu'on a le temps de rentrer vraiment en profondeur, mais ça se diffuse pas beaucoup. Moi, j'ai écrit un livre qui est vendu à, je sais pas, 5000 exemplaires, et en sciences sociales, c'est extraordinaire, quoi. Donc, on avait envie d'autres formes, mais pas seulement, je pense, pour faire connaître, mieux développer nos idées, mais aussi d'autres formes pour nous-mêmes. Et parce que l'écriture, elle permet des choses que permettent pas d'autres. Et voilà. Donc je pense qu'on est parti. Moi, je dirais qu'on est parti d'une envie d'autres formes et besoin, et que c'est un besoin qu'on partage aussi avec le public. On a tous besoin de ça. Et voilà. Et à partir de là, on a inventé une forme à partir de nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on est, ce qu'on aime. C'est-à-dire à partir de savoirs scientifiques solides, rigoureux, mais aussi de ce qui nous émeut, de ce qui nous parle, de ce qui nous fait frissonner. Et donc voilà, on a inventé tous les deux une forme à partir de ça, de ce qu'on est, c'est-à-dire géographe, sociologue, mais aussi des gens qui sont émus par des chansons, par des films, par des paroles. Voilà, je dirais ça comme ça.
Bah, écoute, moi, j'adhère à tout ce que Karen dit parce que je m'y reconnais bien. Donc, de mon expérience professionnelle, c'est que je suis en même temps praticien et en même temps chercheur. Donc, j'ai commencé mon métier comme chercheur. Je suis passé à la, je suis devenu un praticien de la géographie et de la cartographie. Et je suis redevenu chercheur. Et c'est vrai qu'on produit énormément de savoir de recherche. On produit de la valeur ajoutée sur du savoir. C'est-à-dire, on produit du savoir sur un ensemble de savoir. Et on accumule beaucoup, donc il faut voir nos bureaux, c'est vraiment un bordel. Il y a des papiers, des notes partout, et il y a un moment, il faut organiser ça. Donc on écrit des livres, on fait des conférences, on organise ça et on fait beaucoup de conférences. Et le constat, c'était aussi que on a ce savoir et on est content d'avoir ce savoir, mais comment le restituer ? Et en général, on le restitue, on est invité dans des colloques, on fait des conférences, et pour dire la vérité, il y a un moment vraiment où ça devient extrêmement chiant, parce que c'est toujours les mêmes conférences, toujours les mêmes images, toujours les mêmes slides. On n'a pas l'impression qu'on restitue ce savoir au plus grand nombre. Et en fait, une des idées qu'on a eues, c'était de se dire, bon, déjà, pour nous-mêmes, parce que compacter l'écriture, ça veut dire aussi faire mieux comprendre ce qu'on fait. C'est aussi pour nous une manière de peut-être d'avancer dans nos propres recherches. Mais moi, j'étais aussi intéressé par l'idée de restituer pour le plus grand nombre. Restituer pour le plus grand nombre, ça, j'ai eu cette idée de la performance. Donc, ce n'est pas une conférence sérieuse où on se fait chier au bout d'un quart d'heure, où on n'écoute plus, où on regarde sur son téléphone portable, d'essayer de prendre les gens par l'émotion. En essayant d'utiliser même un vocabulaire, des terminologies plus accessibles pour des gens qui ne sont pas forcément familiers tu vois, avec la chose. Et puis, de l'ouvrir au plus grand nombre et de passer par la performance. Donc moi, je travaille par ailleurs sur un thème qui est une pratique cartographique en prolongement de la cartographie conventionnelle qu'on appelle la cartographie sensible ou sensorielle ou la cartographie émotionnelle. Et ça veut dire intégrer de l'émotion, réhumaniser la carte qui est, comme je l'ai dit hier, assez désincarnée puisqu'on travaille avec des statistiques, des volumes, des trucs et les êtres humains sont un peu absents là-dessus. Et comment on le fait? Et c'est cette idée d'y adjoindre de la musique signifiante, des chansons signifiantes, de l'art signifiant, en relation avec notre sujet, pour capter le cœur des gens, pour capter leur intérêt. Apparemment, ça a marché. D'après ce que j'entends, c'est que les gens ont été sensibles et qu'ils ont, ils sont rentrés en fait dans notre jeu. C'était très expérimental, on ne savait pas ce que ça allait donner, et on est content de voir qu'il y a une bonne réception du public et qu'il y a là une espèce de, il y a un moyen, il y a une espèce de solution peut-être pour diffuser de manière beaucoup plus large ce savoir qui reste un peu entre nous. On est des chercheurs. Quelqu'un disait ce matin, nous n'écrivons que pour nous-mêmes, ou nous n'écrivons en fait pour personne, pour nous-mêmes. C'est juste pour... Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est aussi diffuser le savoir. Donc j'aime bien cette double idée. Pas égoïste, mais cette double idée où on a fait un travail d'écriture très libre, qui n'est pas notre écriture habituelle pour nous, pour même mieux comprendre nos approches, nos concepts, les théories qu'on essaie de développer, donc c'est un travail personnel, mais de mettre ce travail personnel au service du plus grand nombre, en organisant cette performance qui est un mélange d'art, de culture, de références, de citations, de théâtre, parce que finalement on joue. Et Moi, je pense que c'est un peu un prolongement de ce qu'on est. Nous enseignons. Moi, j'enseigne en anglais, j'enseigne en norvégien et en français, dans trois langues. Et je me rends compte que partout, en fait, à partir du moment où on est devant nos étudiants, on est des acteurs de théâtre, on joue. Parce que pour capter l'attention d'une classe pendant trois heures, il faut vraiment donner beaucoup de soi-même. Donc, c'est pas quelque chose qui est totalement inconnu pour nous de faire ce travail, simplement de le faire d'une manière différente. C'est-à-dire, on ne va pas faire une performance devant les étudiants. Enfin, on ne va pas l'appeler comme ça, mais c'est un peu une performance quand même. Et là, elle est complètement assumée, puisqu'on va proposer, on s'offre au public et on propose nos choix musicaux, nos choix intellectuels, et puis aussi, voilà, nos concepts, notre idéologie et ce qu'on veut transmettre.
Sur le fond, peut-être pour rentrer un petit peu dans ce que vous avez dit hier, vous n'allez pas nous refaire la conférence évidemment, mais vous proposez au public, je cite vos mots, d'inverser le regard et d'explorer le hors-champ des réalités en matière de migration. En quoi ces deux idées sont importantes dans votre réflexion ?
C'est des idées qu'on porte depuis vraiment très longtemps. Et par exemple, une partie de ce qu'on a utilisé dans le spectacle, c'est des choses que, par exemple, moi j'utilise en cours avec mes étudiants. Et parce que, en fait, sur les migrations, ce qui est donné à voir en général, c'est des choses qui sont un peu spectaculaires et qui sont anxiogènes et qui sont orientées vers l'idée que il y a un problème de l'immigration. Et nous qui travaillons sur ces sujets depuis très très longtemps, on voit plein d'autres choses. Et on voit bien en fait ce qui est jamais raconté ou ce qui est peu raconté et ce qui est toujours diffusé. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de donner à voir d'autres choses qui ne sont pas racontées et qui sont moins diffusées et qui disent l'inverse de cette idée qu'on a un problème, que les immigrés, en gros, les immigrés, ils posent trois problèmes. Ils remplacent la culture, ils coûtent cher, et je sais plus, j'en ai trois.
Une menace sur notre civilisation européenne, soi-disant.
Ou notre sécurité. Ouais. Et ce qui est toujours amené, c'est des exemples de choses qui vont dans le sens de cette idée. Donc nous, on a plein de choses qui disent l'inverse dans tout ce qu'on rencontre et ce sur quoi on travaille. Donc, le hors-champ, on dit sortir du spectacle pour aller dans le hors-champ, c'est d'aller regarder toutes ces autres choses-là qui ne sont pas dites et qui donnent un tout autre regard, une toute autre image de ce que c'est la migration.
Et qui sont basées sur du factuel en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas idéologique, c'est vraiment factuel. Donc, c'est puissant d'une certaine manière.
Et donc inverser le regard, et pour moi, j'arrive pas encore bien à l'élaborer parce que tout ça est frais. Donc on fait des choses et on comprend un peu aussi après pourquoi on les fait. Mais c'est à la fois amener d'autres données, d'autres images, mais c'est aussi en fait que tout ça, ça amène à retourner complètement différemment la question. C'est pas seulement que c'est des informations en plus, mais c'est que c'est des informations en plus qui inversent complètement la manière de penser cette question-là qui est complètement mal pensée et qui est une catastrophe. C'est une catastrophe pas seulement pour la question de l'immigration, pour la question des immigrés, pour la question des étrangers, de penser que les immigrés sont un problème mais c'est une catastrophe parce que en fait tout ça c'est fait pour que on oublie les vrais problèmes. Donc ça concerne tout le monde en fait cette question. Ça concerne pas seulement les gens qui s'inquiètent. Qui s'intéressent à la migration. Donc voilà, inverser le regard et aller vers le champ, c'est à la fois amener d'autres éléments, mais des éléments qui inversent la manière de voir et qui permet non seulement de regarder l'immigration différemment, et peut-être que ça, on ne l'a pas assez fait dans le spectacle, mais aussi de regarder toute la question de notre société de manière différente. Parce que si ce n'est pas ça le problème, il y a un problème, il est où, il est ailleurs, allons voir.
Oui, c'est-à-dire, on se pose la question de savoir pourquoi on a ces narratifs tellement réducteurs, tellement excluants, basés sur, alors là du coup, sur des idées, sur du ressenti, c'est ce qu'on essaye d'expliquer hier, et que ce ressenti, quand on le compare au réel, qui sont les statistiques, qui sont les chiffres, qui sont des choses beaucoup plus factuelles, on se rend compte qu'il y a vraiment une très grosse différence. Alors moi, mon point de vue de géographe, c'est que le hors-champ, c'est aussi une recontextualisation. On travaille vraiment de manière multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles, et on a essayé de le montrer un peu hier. Quand on prend du recul, quand on prend de la distance et qu'on prend des éléments comparatifs pertinents, on se rend compte qu'on peut avoir ce discours complètement différent en disant « Mais attendez, vous parlez d'une menace sur la civilisation européenne à 0,2% des gens qui viennent et qui en plus nous rapportent de l'argent. Comment c'est possible ?» C'est juste pas possible, mais simplement, ça n'est pas, on l'entend pas parce qu'il n'y a pas la surface pour l'entendre. Puisque le discours très excluant, très, cette crispation comme ça, un peu nationaliste, il est tellement dominant, avec aussi des médias qui sont tellement dominants, qui soutiennent et qui portent en fait, cette narration-là, c'est extrêmement difficile d'être entendu. Donc c'est la performance, le spectacle, la pièce de théâtre, enfin ce qu'on essaye d'inventer, on va le faire évoluer. Moi, j'ai dans l'idée que ça peut porter une autre voix raisonnable. Notre boussole, c'est la raison, c'est le droit, c'est l'état de droit, c'est bon, voilà. Sur un plus grand nombre. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on transporte le savoir dans quelque chose qui est plus performatif, donc qui fait partie de la performance, du théâtre, des arts en quelque sorte. Il y a beaucoup d'activistes qui, il y a déjà 3 ou 4 décennies, ont compris que utiliser le médium art, ça pouvait permettre de porter des choses sur le public de manière plus facile. Voilà. Donc des activistes qui travaillent pour la défense du droit des Palestiniens. De faire des œuvres d'art, de faire des tableaux, d'organiser des expositions artistiques, c'était un moyen de rentrer dans l'espace public et de ne pas être ni censuré ni interdit, surtout en ce moment, mais pour plein d'autres causes. Donc d'utiliser l'art comme un médium pour être plus visible sur des choses qui de toute façon seraient censurées par d'autres moyens, c'est aussi, ça a été le modus operandi de tous les cartographes radicaux déjà depuis le début des années 90.
Et vous dites que les cartes sont en colère. Je voulais m'arrêter peut-être sur ce terme. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, elles sont en colère parce qu'elles mettent en colère, en fait. Les cartes, elles sont la figuration de nos propres colères, de nos propres révoltes. C'est-à-dire qu'on constate, on fait des recherches. L'exposition, en fait, elle est le pendant artistique, si je puis dire, ou carto artistique de la performance. Donc, il y a un lien très fort. La carte en colère, elle met en colère les gens. Elle met le cartographe en colère. Et en fait, l'idée de la carte en colère, il est né en 2007, puisque on avait déjà en 2007 le musée d'art moderne de Vienne, en Autriche, nous avait demandé de faire une exposition sur les parcours migratoires de migrants entre le Nigeria, le Cameroun et Vienne. Et on a donc créé un certain nombre de cartes, un corpus cartographique. Et au moment de l'exposition, on avait invité tous les demandeurs d'asile et tous les réfugiés, tous les migrants. On ne revient pas sur la terminologie parce qu'on en a parlé assez hier, à venir faire ce vernissage avec nous. Et moi, je me tenais un petit peu derrière. Il y avait un groupe de demandeurs d'asile qui était devant la carte de la grande roue africaine et la carte des morts aux frontières, qui était peint à la main avec ces grands ronds rouges très terribles, tragiques, parce qu'ils représentent tellement de destins détruits. C'est des morts, quand même. Et il disait rien du tout pendant une ou deux minutes, et tout à coup, il y en a quand même un qui dit, un demandeur d'asile camerounais qui dit, quand même, on sent que le cartographe, quand il a dessiné ses cartes, il était très en colère, on le sent sur les cartes. Et moi j'ai pensé, mais voilà, ça c'est le titre de l'exposition, Cartes en colère. Parce qu'elles me mettent en colère, et c'est pour ça qu'on les fait, mais elles mettent en colère aussi les gens qui les regardent, et les gens qui les reçoivent. Donc c'est cette idée de dire, d'abord on a une colère, on est en révolte face à ce qui est de l'inégalité, de l'injustice totale, bon voilà. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là aussi, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a fait les cartes en colère, on veut essayer de transmettre cette colère et de transmettre cette idée qu'il faut faire quelque chose. Et là, on est très impuissant parce que on est très bon pour faire de l'information, pour essayer de diffuser cette information le plus qu'on peut, mais il faut aussi qu'on travaille ensemble avec des associations qui vraiment font de l'accueil, etc. Bon, activement, nous, en Norvège, on est famille référente pour des familles réfugiées qui viennent, et donc on s'occupe de l'intégration, du bien-être d'une famille rwandaise, d'une famille syrienne, d'une famille qui vient d'Ukraine récemment, etc. Donc on est référencé comme ça, et c'est une manière concrète de pouvoir aider, mais on aimerait pouvoir faire plus aussi pour changer la loi, pour changer les lois sur l'exil, les lois sur l'immigration en Europe, que Bruxelles, pour une fois, commence à inverser un peu la tendance, mais là on est très impuissant. L'idée de montrer des cartes qui sont en révolte, mais pas de manière offensive. Donc c'est ça, c'est un peu difficile à expliquer. C'est qu'en même temps, on a envie de dénoncer une situation qui est réelle, mais on n'a pas envie de le faire de telle manière que ça bloque le système. Alors je ne m'exprime pas très bien. Bloquer le système, ça veut dire rendre furieux des gens qui se sentiraient un peu responsables de cette situation, parce que ce sont eux qui font les lois. Moi, j'ai fait plusieurs interventions au Parlement européen. Il y en a une qu'ils ont arrêtée en plein milieu parce que c'était insupportable pour les parlementaires de comprendre que, d'une certaine manière, ils sont responsables de cette hécatombe en Méditerranée. Puisque je le leur dis, je leur montre la carte. Et ils ont dit non, nous, on ne veut pas entendre ça. Donc, on pense que ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Vous interrompez votre conférence. Donc, c'est arrivé une fois. J'ai pu faire d'autres interventions. Mais je pense que là, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Et peut-être dans la performance, ce serait plus facile d'arriver à inverser le mouvement. Mais bon, il y a du travail, on en est loin.
Peut-être pour terminer, comment est-ce que, pour les personnes que ça intéresse et qui souhaiteraient voir, assister à cette conférence, cette performance cartographiée, comment, lapsus, quelle suite est-ce que vous allez lui donner? Comment est-ce que vous souhaitez faire évoluer ce projet, et est-ce qu'il va y en avoir d'autres?
Alors, je rappelle qu'on a fini de l'écrire une demi-heure avant le spectacle, si on peut appeler ça comme ça, et que c'est la première fois qu'on fait ça. C'est pas la première fois qu'on fait ce spectacle, c'est la première fois qu'on prend cette forme. Jusque-là, on a toujours fait des conférences très classiques, plus ou moins classiques.
Oui.
C'est là, les gens, ils viennent nous voir beaucoup. C'est très très beau. Hein. Ils viennent nous voir et ils nous remercient. Nous, on les remercie parce que dans la salle, il s'est passé un truc d'échange en fait assez fort. Et ils nous disent, bon, où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce que vous allez continuer? Donc, on ne sait pas, on n'a pas eu le temps d'y penser encore. Ça s'est passé hier. Mais en tout cas, on a envie.
Oui.
On a envie. Ça, c'est peut-être d'abord le point central. Et après, on vous tiendra au courant. C'est promis.
On est enthousiaste, on a envie, parce que d'abord on sent que on a touché une corde sensible, ouais. Et c'est ce qu'on voulait. Et puis on a envie.
Et puis on a touché une corde pour les gens et pour nous.
Oui,
on a pris un plaisir immense,
oui,
bien absolument. Plus grand que dans toutes nos autres conférences. Oui. Donc voilà. C'est pour ça que c'est la rencontre en fait. C'est une rencontre entre le plaisir qu'on a vu qu'on a donné, le plaisir qu'on a pris. Donc pour moi c'est le signe que on est sur quelque chose qu'il faut continuer, qu'on a trouvé quelque chose. Bien pour
oui,
nous.
C'était même tellement fort. Enfin, hier, ça fait plusieurs années que j'ai participé à ce formidable projet de carte dansée avec les deux chorégraphes. Et donc, on a mis en scène cette chorégraphe. On y a adjoint un morceau de musique qu'on a extrêmement bien choisi, qui était pas triste, mais en même temps assez lent parce qu'ils expriment la lenteur. Et quand on était sur place, sur scène, et qu'on a lancé ce tableau, on appelle, voilà, chacune de ces petites scènes, on les a appelées des tableaux, parce que des tableaux vivants. Mais tout d'un coup, j'ai presque failli pleurer, parce que c'était très émotionnel, et je me suis pris à ma propre. Et c'est la première fois dans une conférence ou tu vois, dans une présentation publique. Habituellement, j'ai pas la chair de poule comme quand je vois un tableau qui me plaît beaucoup, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai revu ces images que je connaissais bien, parce que j'ai participé à ce projet, les photos, j'ai participé à l'élaboration de cette chorégraphie, et de le revoir dans la condition de la mise en scène, parce que c'est une mise en scène. Tout d'un coup, j'ai eu vraiment une émotion très forte, et j'avais les larmes aux yeux presque en me disant quand même qu'est-ce que c'est fort ces danseurs qui sont eux-mêmes des demandeurs d'asile de reprendre ce chemin pour essayer de transcender cette expérience traumatique par la chorégraphie et donc là aussi du coup on a touché et ça c'est aussi important, c'était important pour nous comme on espère que c'était important pour le public mais pour continuer, là je peux dire qu'on est super enthousiaste, on a vraiment envie de le faire en plus on travaille très bien, on a vraiment construit quelque chose qui est intéressant pour nous, on a même appris des trucs, c'est-à-dire on apprend à formaliser le savoir d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus compacte.
On a un problème, c'est qu'on est débordé et que Philippe il vit en Norvège. Moi, je suis 70% de mon temps de travail, c'est l'université, c'est les étudiants, c'est la formation. Donc, on veut le faire, on le fera, mais peut-être à un rythme qui n'est pas celui de vrais artistes ou de vrais ou de personnes dont c'est le seul métier, on va dire. Mais je pense qu'on va y aller.
Ben merci beaucoup, Karen Akoka et Philippe Rekasevic.
Ben merci à toi.
Merci.
Radio-là, radio locale d'intérêt général.